Mon père, nous avons deux questions à vous poser concernant notre cours. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons regardé les six premières dimensions de la personne humaine et vous nous avez introduit à la septième. Les trois premières dimensions de la personne humaine concernent davantage l'esprit, à savoir l'autonomie, la recherche de vérité et l'amour, alors que les trois autres ont plus rapport au corps. On voulait savoir, on a du mal à situer la septième. Est-ce que c'est une dimension mixte? Ou alors comment est-ce qu'on pourrait la situer? Comment est-ce qu'elle ordonne les six premières?
La dernière, c'est-à-dire cette prise de conscience que nous sommes une créature, donc présuppose que le philosophe ait découvert l'existence de Dieu. Alors, il faut toujours bien faire attention que le philosophe doit, c'est son devoir, découvrir l'existence de Dieu ou au contraire rejeter cette existence. Ça, c'est la position philosophique ultime. Mais c'est une position philosophique que nous devons tous résoudre. Oui ou non? Oui, on cherche à prouver l'existence de Dieu. Comment pouvons-nous atteindre philosophiquement l'existence de Dieu? Ou non, c'est le repliement sur l'homme qui est la créature, qui est du moins, je ne peux pas parler de créature, qui est l'être le plus parfait que je connais. Le plus parfait que je connais par mode d'expérience, c'est la personne. Ce n'est pas la vache. Ce n'est pas le chien, ce n'est pas le chat, ce n'est pas le perroquet, c'est l'homme. L'animal le plus parfait que vous connaissez, c'est vous. Parce que vous êtes capable de vous dépasser. C'est en vous dépassant que vous saisissez votre grandeur. C'est pour ça que les diverses dimensions que nous avons soulignées sont toutes dépassées, approfondies, par la septième, je suis une créature d'un être transcendant. Je suis dépendant d'un être premier. Et cette dépendance accompagne mon autonomie, ma recherche de vérité, ma recherche d'amour et le point de vue de ma prudence et le point de vue de l'art toutes les dimensions que j'ai saisies sur la personne vont se nouer dans cette dernière affirmation, je suis un être créé. Ma personne, c'est une créature. La personne est donc un être qui fondamentalement est dépendant d'un être premier, qu'il peut découvrir, qu'il est capable d'affirmer. Et c'est cette découverte de l'être premier comme mon créateur, celui qui actuellement crée mon âme, que je reconnais comme étant la septième dimension de ma personne. C'est à la fois ce qui me montre ma grandeur et ma dépendance. Ma grandeur, c'est que mon âme est créée directement par Dieu. Ma dépendance, c'est que je dépends dans mon être entièrement de Dieu. Et donc, ma personne se noue dans cette dépendance. Cette dépendance me donne mon autonomie. Je ne dépends que de Dieu. Mais je ne dépends pas de la communauté en laquelle je suis né, en laquelle j'ai été élevé, de laquelle j'ai reçu beaucoup. Je n'y dépends pas radicalement de ma famille et de mon pays. Je dépends radicalement de l'être premier. C'est ma grandeur ultime. Parce que personne ne peut m'enlever ça. On construira toutes les idéologies possibles pour essayer de m'écarter de ça. Mais toutes ces idéologies tombent dès que je les regarde au point de vue de l'être. Et c'est pour ça que la dernière dimension me montre que la personne ne peut être saisie qu'au plan métaphysique. Saisir ma dépendance à l'égard de Dieu comme créateur ne peut être saisie qu'au plan métaphysique. C'est pour ça que c'est si important de saisir cette dernière dimension. C'est en quelque sorte cette dernière dimension de la personne qui me montre vraiment mon autonomie, la finalité de mon intelligence, la finalité de mon cœur, de ma volonté, ce que représente exactement ma recherche de l'absolu, ce que représente l'art, ce que représente mon corps. C'est cette dernière dimension qui reprend tout. En unifiant, en ordonnant toutes ces diverses dimensions. Mais voyez, je la mets en dernier lieu, parce que elle présuppose la découverte philosophique de Dieu. Ce qui est assez rare. Alors, si c'est assez rare, il y a très peu de personnes. Si je ne suis conscient de ma dignité, conscient du sens de mon intelligence, du sens profond de ma volonté, de ce que représente ma prudence et mon art, que en découvrant l'indépendance à l'égard de Dieu, très peu d'individus sont des personnes. Suite, c'est l'objection. Alors, à cette objection, il faut répondre. Que la constatation pratique de l'existence de Dieu, de la dépendance de l'existence de Dieu, peut très bien ne reposer que sur l'opinion des hommes. C'est suffisant pour le point de vue pratique. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'existence de Dieu est discutée, où elle fait que le monde se divise en deux, ceux qui respectent l'existence d'un être premier, qu'on appelle Dieu, et ceux qui rejettent. Ce qui fait donc que l'humanité, dans ce qu'elle a de plus profond, est divisé. Elle est divisée si l'homme prend conscience que ce problème de l'existence de Dieu divise l'humanité en deux parties. Et que c'est une division radicale. Je ne peux pas ne pas la regarder. Elle est fondamentale. Je suis obligé de reconnaître que si Dieu n'existe pas, ma personne humaine va se saisir elle-même. C'est la conscience que j'ai que je suis un être libre, qui fera ma personne. Mais cette conscience que je suis un homme libre, qui est ma personne, est une conscience qui ne va pas jusqu'au bout, puisque je suis en présence d'une humanité qui accepte la réalité suprême, Dieu. Je suis obligé. Le problème même de la personne humaine m'oblige de choisir moi-même ces deux orientations de l'homme. J'accepte que sans Dieu, l'homme peut avoir une certaine finalité en lui-même. Qui fera que le problème de sa personnalité, de sa personne, sera l'unité profonde qu'il réalise par lui-même et en lui-même, relativement aux autres. Si Dieu existe, au contraire, cette unité ne se réalisera pas en lui-même, mais se réalisera grâce à sa relation à son Créateur. Je crois que le philosophe doit faire cette constatation, puisque nous sommes en face d'un monde où Dieu, l'être premier, est rejeté. J'ai des quantités d'hommes. Je ne peux pas dire que vis-à-vis d'eux, ils n'ont pas de personnalité. Je dois dire, ils ont une personnalité qui est immanente à eux-mêmes et qui, par le fait même, est tronquée, brisée. Leur personnalité, c'est eux-mêmes qui la font. En respectant la personnalité de l'autre. Il n'y a aucune raison, si Dieu n'existe pas, que mon voisin me domine. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Est-ce qu'il a, il est plus intelligent ? Mais est-ce que c'est l'intelligence qui permet l'unité de ma personne ? Non. C'est l'amour. Mais l'amour de qui ? L'amour de l'autre, de l'homme. Alors, la question se pose, peut-on être une personne vraie ? Uniquement par la découverte de l'amitié. Aimer l'homme, découvrir que l'homme est quelque chose de très grand. Est-ce que c'est suffisant pour me découvrir moi-même comme faisant partie de l'espèce humaine? Alors, je dois reconnaître que cette découverte de l'autre dans l'amitié peut finaliser l'homme et peut réaliser une certaine dignité de l'homme. Toute sa vie consistera à respecter la liberté d'un autre homme et de la respecter en vue de pouvoir l'aimer comme une personne libre. Reconnaissons donc qu'au point de vue purement philosophique, il y aura donc deux visions de la personne humaine. L'une à partir de la création de l'âme, l'autre à partir de l'amitié. L'amitié, la véritable amitié, c'est-à-dire le respect de l'autre et l'amour de l'autre, peut très bien finaliser la vie d'un homme. Et lui donner une certaine dignité humaine. La dignité qu'il reconnaîtra pour tous les hommes. Tous les hommes demandent de recevoir cette dignité, de les respecter dans leur choix, dans leur vie, dans l'orientation de leur vie. Mais évidemment, l'homme ne dépassera pas à ce moment-là, sa prudence. C'est sa prudence politique qui sera sa sagesse. Et non pas la découverte de Dieu. Je crois que ça, c'est très important pour nous. Ce n'est pas un libéralisme, c'est une constatation que l'amitié est une vraie finalité. L'amitié d'un autre, d'une autre personne humaine, peut finaliser ma vie. Ce n'est pas moi qui me finalise, mais l'autre. Que j'aime plus que moi. Et je puis finaliser toute ma vie, l'aimer. Et à le considérer comme un autre moi-même que j'aime. Et voir qu'avec lui, je découvre une certaine grandeur de l'homme. Je serai dans une vérité imparfaite qui ne va pas jusqu'au bout, mais j'aurai quand même une certaine vérité. Ce qui est très important. Je peux construire une humanité dans l'amitié. Avoir une certaine politique humaine qui respecte l'amitié. Mais je ne peux pas découvrir la personne humaine sans cet amour d'amitié. Si cet amour d'amitié n'existe pas, j'aurai des savants, j'aurai des artistes qui resteront des individus qui sont sans doute assez parfaits, se construisant eux-mêmes dans une certaine dignité humaine, mais la personne humaine ne pourra pas ne pourra pas s'expliciter comme une personne. Autrement dit, l'homme qui se spécialise en mathématiques, qui peut être la seule rivale de la sagesse. Il n'y a que les mathématiques qui peuvent être rivales de la sagesse. L'histoire ne peut pas être rivale de la sagesse. Mais les mathématiques peuvent. Dans ces conditions-là, ce n'est plus l'amitié qui finalise l'homme. C'est uniquement sa capacité de synthèse, de relation qui est première et qui le permet de dominer les autres. Donc, sa personne sera dans la domination des autres. Ce qui ne conduit pas à la paix, mais qui augmente les rivalités, les divisions. Donc, c'est une fausse personne. Est-ce que, vous voyez, la question, est-ce que les mathématiques peuvent former une personne? Les mathématiques peuvent donner à quelqu'un une très grande supériorité dans l'ordre de la synthèse, dans l'ordre de l'unification du monde, dans l'ordre économique. Mais les mathématiques ne peuvent pas donner une supériorité à l'homme dans sa personne. Et c'est l'individu qui domine. Et la personne se tait. C'est pour ça que les mathématiques peuvent seules être rivales de la sagesse et rivales de la personne. Là, il y a un très gros problème qui est très actuel et qui est très intéressant philosophiquement. Et vous voyez, posez-vous la question, est-ce que les mathématiques ou est-ce que les mathématiques, au contraire, me donnent une fausse finalité? L'homme pense que en lui-même et par lui-même, par ses sciences mathématiques, il peut découvrir une sagesse. Or, l'homme ne peut pas être pour lui-même sa propre finalité. Pourquoi ? L'homme ne peut pas être par lui-même et pour lui-même sa propre finalité. Parce que en lui-même, il ne découvre pas sa fin. Ce qui est supérieur à lui, c'est lui qu'il découvre, et c'est toujours lui. Et comme les mathématiques ne font pas toucher la bonté de l'être, mais uniquement une certaine intelligibilité de l'être, les mathématiques ne me font pas sortir de moi-même. Je demeure dans mon immanence. Et donc, je n'atteins pas ma personne. Je développe l'individu. Je développe la possibilité de domination. La possibilité d'être premier. Je ne développe pas la possibilité d'attirer les autres par la bonté. Les mathématiques n'augmentent pas la bonté de l'homme, mais augmentent sa puissance, sa domination. Et c'est ça le drame actuel. C'est que les mathématiques veulent dominer pour être sagesse. C'est pas les mathématiques, c'est les mathématiciens. Vous voyez, c'est, je crois, un problème qui est très central aujourd'hui. Si l'humanité s'aimait par l'amitié, cette humanité pourrait encore vivre. Même sans Dieu. Sans Dieu explicitement. Mais l'humanité, sans Dieu, se réfugiant dans la technique, se réfugiant dans les mathématiques, ne peut que dominer. Elle ne peut pas finaliser. Elle ne peut que dominer. C'est pour ça qu'au fond, au point de vue personne, nous avons où la personne découvre l'existence de Dieu, où la personne ne découvre pas l'existence de Dieu, mais découvre la grandeur de l'amitié. Il y a deux possibilités. Une humanité qui se replie sur elle-même dans l'amitié, ou une humanité qui s'agrandit en reconnaissant l'indépendance à l'égard d'un être suprême. Il n'y a pas une troisième position qui serait la position mathématique. C'est la position de Platon, hein. Cette troisième solution, elle peut séduire, mais elle n'est pas réaliste. Donc, elle s'achève nécessairement par la rivalité. Une rivalité impitoyable, dépasser toujours l'autre. Alors,
aller, Père. On n'a pas envie de parler. En abordant la dimension religieuse de la personne humaine,
oui.
Vous nous avez permis de découvrir l'importance de l'acte créateur pour une saine compréhension de l'homme. Quel dialogue pouvons-nous établir avec certains de nos contemporains qui voient dans l'acte d'adoration une simple projection imaginative? Et le second volet de la question, quelle différence y a-t-il entre le fait de remonter à la source de notre être par l'adoration et le mythe des origines qui creuse dans le cœur de l'homme une soif de découvrir ses racines?
L'homme qui considère que l'adoration, c'est lui qui fabrique cela, idéalement, parce qu'il a besoin absolument de regarder quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il a la nostalgie du paradis perdu. Donc, la religion, ce serait pour tout simplement pour répondre à cette nostalgie. L'homme a besoin d'un plus grand que lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? On peut répondre à ça que prétendre que l'homme a besoin d'un plus grand que lui et que si ce plus grand que lui n'existe pas, il le fabrique. Il faut répondre à cela que l'homme peut discerner assez vite la différence entre un véritable amour, c'est-à-dire une finalité, et une sorte de spéculation au-dedans de lui-même pour mettre quelqu'un qui est plus grand que lui. Alors, cette spéculation, elle peut très bien exister. Nous sommes des êtres imaginatifs. Et quand nous n'avons pas trouvé notre idéal, nous le forgeons, nous en formons un. Alors, il s'agit de découvrir la vraie finalité. Discerner la différence entre l'imagination qui conduit à la séduction et le véritable amour. C'est chacun d'entre nous qui doit arriver à faire ce discernement entre l'imagination et la réalité. Il est sûr que dans la mesure où on est dans un désert, ça favorise énormément le développement de l'imagination. Dans la mesure où nous n'avons pas la rectification de l'amitié, nous risquons toujours d'inventer notre monde à nous. Et ceci, on le voit partout. Même au point de vue religieux. Alors, qu'est-ce qui peut corriger ça ? C'est de voir que nous sommes capables de discerner ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Mon monde imaginaire, il faut le saisir pour ce qu'il est dès son point de départ. Discerner l'indifférence du jugement d'existence, ceci est de l'imaginaire, de ce qui est beau, de ce qui est séduisant, de ce qui nous attire, mais qui n'existe pas dès le point de départ. Il faut saisir que l'homme peut se développer dans l'imagination, mais dans l'imagination, il se développe lui-même et s'enfonce dans l'isolement. Développer sa personnalité dans l'amitié, c'est toujours pouvoir se rectifier par l'amitié. L'ami est quelqu'un de réel en dehors de nous. La séduction c'est quelque chose d'imaginaire au plus intime de nous. On est séduit par quelque chose d'imaginaire. Alors, c'est le point de départ où nous pouvons discerner ce qui existe et ce qui est imaginaire. Dans une grande construction de l'imaginaire, c'est beaucoup plus difficile de discerner que l'imaginaire est faux, parce qu'on est séduit. On est séduit nous-mêmes par notre construction imaginaire. Et quelqu'un qui est séduit par sa construction imaginaire, vous n'arrivez plus à le raisonner et lui faire comprendre la différence entre l'imaginaire et le réel. Le monde qui se lance dans une vision imaginaire aura une peine énorme de découvrir son erreur, sauf devant une catastrophe. Il faut ordinairement la catastrophe pour que l'homme puisse se réveiller. C'est ça le danger. La séduction n'a pas en elle-même le pouvoir de me réveiller. Je suis dans la séduction. L'ami peut, à la rigueur, dire à son ami « Attention ». Mais il faut que l'amitié soit arrivée déjà à une certaine perfection pour que l'ami croit son ami au-delà de la séduction. Voilà. Il faut réfléchir à ça pour la fois prochaine. Parce que c'est au fond le gros problème d'aujourd'hui. Je crois que nous devons accepter qu'il peut y avoir une rectification de vie par l'amitié. Une rectification de vie ne se fait pleinement que par l'adoration. Mais l'adoration, on ne pouvait pas la demander à tout le monde, puisque tout le monde n'a pas découvert l'existence de Dieu. Mais ce que vous pouvez demander à tout homme, c'est l'expérience d'amitié. Autrement, le monde va à la dérive. Les deux seuls points qui nous rectifient, c'est l'adoration et l'amitié. Réfléchissez beaucoup à ça. C'est les deux seuls points qui me rectifient, l'adoration et l'amitié.